Bonsoir à tous. Donc, vous l'avez vu, le thème, la fiabilité de la Bible. Voilà ce qu'on nous dit. Ne croyez pas tout ce que vous entendez, tout ce que vous lisez en général. La maman dit souvent à son enfant, n'accepte pas tout d'un inconnu. Ne croyez pas toujours tout ce qu'on vous dit, sous prétexte que ce n'est pas forcément juste. Mais c'est en même temps paradoxal parce que on vit dans une société où on se fait un avis sur un titre de journal. Vous allez dire, je sais pas, Michael Jackson a pédophilé, et là de suite on va se dire, ah ouais, le mec, ah mince, machin, blablabla. On va commencer à parler à partir de cette idée simple qu'on a reçue. En gros, on a cette balance-là avec, d'un côté, ben, ne croyez pas tout ce que vous entendez, quelque part en même temps, où on a une réflexion qui est un peu trop simpliste, où on accepte les choses assez facilement. Quel est le souci ? Eh bien, dans notre culture où il n'y a pas de vraie vérité, il ne faut pas trop dire les choses, eh bien, en fait, finalement, la Bible, elle est très facilement critiquée. Et ce que je vous suggère, plutôt que dire ça, c'est plutôt, face à un sujet, allez plus loin, creusez le sujet, informez-vous, pour vous faire un avis conséquent à partir des sources. Et ça, vous avez pu vous en rendre compte, c'est que écrire sur Michael Jackson, c'est pas si simple que ça. Pourtant, on a pris quelqu'un qui était connu mondialement, en sorte que vous soyez de la France, que vous soyez de l'Amérique, de l'Angleterre, d'Afrique, vous puissiez savoir qui est cette personne. Mais pour autant, vous ne saurez pas dire des choses précises sur qui est Michael Jackson, où est-ce qu'il est né, à quelle heure il est né, dans quelle ville, dans quel quartier il habitait, comment s'appelait son voisin quand il était jeune. Ces éléments-là ne sont pas à notre disponibilité. Et qui peut les avoir? Uniquement les personnes qui étaient proches de Michael Jackson, peut-être son frère, sa mère. Ces personnes-là pouvaient potentiellement donner ces éléments concrets. Et c'est ce qui se passe avec la Bible. C'est ce qu'on va voir. Alors, ce qu'on a fait ce soir, c'est vous avez été des historiographes. Voilà, c'est le terme. C'est une discipline de l'histoire qui donne une méthode pour écrire un récit de façon à ce qu'il soit véridique, qu'il soit basé, fondé sur des éléments historiques. Et du coup, et c'est une science, tout simplement. Et il y a une science qui est là et qui définit une méthode donnée pour pouvoir écrire une histoire. Donc c'est cette science-là, elle s'appelle l'historiographie. Et nous, on vient de la faire à petite échelle sur Michael Jackson. Et vous êtes rendu compte vous-même qu'avec plus de sources, avec Internet, avec des sources fiables, comme les parents de Michael Jackson, vous pouvez écrire quelque chose d'un peu plus probant, d'un peu plus conséquent et avec un contenu qui est plus... je ne sais pas combien de lignes vous avez écrit. Et moi, j'ai dû en écrire 5 ou 6. Après, j'étais sec, quoi. Donc, voilà. Alors, si on s'intéresse à cette science, j'ai mis 2 livres de Charles-Victor Langlois et de Charles Seignobos. Donc, c'est du 19e siècle pour le livre français. Et en fait, c'est des gens qui ont... En fait, ils ont écrit une méthode, des méthodes pour écrire un récit qui tienne la route, parce que c'était un moment de l'histoire où on voulait garder l'histoire, c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas si vous avez kiffé l'histoire quand vous étiez au lycée, moi je me souviens presque de rien, mais la foi chrétienne, c'est une foi historique, elle est basée sur l'histoire de la vie de Jésus-Christ, et l'histoire est importante. Donc pensons à dire merci à ces personnes-là qui prennent le temps d'étudier l'histoire et de nous la retranscrire de façon fidèle, juste, parce que notre foi est fondée sur des éléments historiques. Donc voilà. Donc en gros, il y a un deuxième gars qui s'appelle, je ne sais pas comment on dit ça, Chauncey Saunders. Et en fait, quand vous regardez ces deux bouquins, le premier bouquin, il parle beaucoup des critiques externes et internes. Et Chauncey Saunders, lui, il parle des trois. Il parle des trois critiques. Enfin, des trois éléments, en fait, concrets pour pouvoir vérifier l'historiographie d'un texte. Donc, on va essayer de voir ces trois choses-là. Comment ? Donc ça, c'est le thème. Donc voilà un peu le plan de ce soir. On va commencer en regardant à ce que c'est que le test bibliographique. Il faut juste que je retrouve mes notes. Et ensuite, on va s'intéresser aux sources externes. Tout à l'heure, j'ai marqué des preuves externes et des preuves internes. Donc on va regarder les deux. Donc, dans les preuves externes, on va regarder deux personnes. Donc c'est Tacite. Et Pline le Jeune. Qui sont ces personnes? Eh bien, ce sont des Romains. Tous deux qui ont eu, comment dire, un rôle important dans la Rome de l'époque. Donc, c'est ces deux personnes-là qui nous serviront de sources extérieures, que vous allez voir qu'ils vont dire des choses qu'on retrouve dans les récits bibliques. Et ensuite, du coup, on va regarder les tests internes. Donc, test interne, c'est, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a dans ce récit-là qui fait que nous puissions aujourd'hui lui accorder du crédit? Et enfin, l'évangile de Thomas. On entend souvent parler, ah ouais, mais il y a l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas, l'évangile de Marie, l'évangile de je sais pas qui. Ce sont des choses qu'on dit, voilà, pourquoi en fait vous ne prenez pas ce texte-là? Pourquoi vous ne prenez pas telle chose? Pourquoi? Et bien là également, il y a des réponses. Et j'espère qu'à la fin, vous pourrez répondre. On pourra normalement tous pouvoir lire, on va lire une partie, donc j'ai ramené cet évangile qui n'est pas biblique, qu'on va lire ici, en partie en tout cas, et on va essayer de voir ben, qu'est-ce que ce monsieur il disait. Et on pourra se faire un avis concret là-dessus. Donc, c'est parti, on commence avec le test bibliographique. Donc, en quoi ça consiste? Ce texte-là consiste à regarder l'ensemble des récits qui ont été écrits, qui sont parvenus à nous. Okay? Donc en fait, on regarde le nombre de manuscrits qu'on a. Donc si vous regardez, donc là j'ai mis quatre colonnes. Ça, c'est des récits qu'on a aujourd'hui. Donc César, vous avez entendu parler de César. Vous ne l'avez pas entendu parler comme ça. C'est venu forcément via un livre. Donc voilà, César, son histoire date de 100 à 44 avant Jésus-Christ. Le plus ancien manuscrit date de 900. OK? 900. Donc un intervalle de près de 1000 ans. Alors, je ne sais pas si vous voyez qu'est-ce que ça implique. Imaginez maintenant qu'on vous demande ici, là, d'écrire sur une histoire qui s'est déroulée il y a 1000 ans, en 2019, en 1919. Pardon? Ah, voilà, merci. Donc du coup, c'est quand? C'est en... En 1019, voilà, super, c'est parti. Donc, essayez d'écrire un truc qui date de 1019. Là, on a parlé de Michael Jackson, hein, c'est moins de, enfin, 7, combien? Moins de 10 ans. Enfin, 7. Et si ça devait être de près de 1000 ans? Vous écrivez dessus, sur ce mec César. Quelle source vous allez avoir aujourd'hui? Et maintenant, placez-vous, aujourd'hui, on a Internet, tout ça, enlevez Internet, enlevez toutes les bibliothèques qui existent. On se place à cette date-là, qu'est-ce que vous aurez comme élément? Est-ce que vous voyez la distance qu'il y a entre les faits et le récit qui est écrit sur la personne? Et ça, c'est un élément important qu'on va voir tout à l'heure. Pareil pour Platon, 1250 ans d'intervalle. Et quand on arrive, je cite, au Nouveau Testament, la rédaction date de 50-100, donc Jésus est mort. Allez, à peu près en l'an 40-30, par là. Les disciples ont commencé à écrire dans ces zones-là. Le Nouveau Testament, tout le récit du Nouveau Testament était bouclé. Et le plus ancien manuscrit qu'on a date du 2e siècle. Ça veut dire que c'était moins de 100 ans moins de 100 ans du déroulement de ces choses-là, de ce qui s'est passé. C'est comme si aujourd'hui, j'écrivais une histoire sur quelque chose qui s'est passé il y a moins de 100 ans, donc 1919. La guerre mondiale. C'est-à-dire, enfin, je pourrais trouver encore aujourd'hui des peut-être pas des contemporains, c'est sûr, des sources, et en fait, surtout, ces récits ont été écrits pour la plus, enfin, les évangiles concernaient Jérusalem. Donc, on pouvait savoir qu'il y avait quelqu'un qui avait habité là, qui avait fait telle chose pour pouvoir vérifier en tout cas ces choses-là. Et donc, en un intervalle de moins de 100 ans, maintenant, regardez au nombre de manuscrits qu'on a. Ça déboîte. Ça déboîte. Est-ce que vous réalisez maintenant comment c'est important? Tout à l'heure, vous avez écrit, on était combien? 6 par groupe? Vous avez parlé de Michael Jackson, n'est-ce pas? Vous avez tous écrit quelque chose sur Michael Jackson. On avait chacun 6 manuscrits, on peut dire ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de comparer nos informations pour voir un peu. Alors toi tu disais ça. Alors imaginez ce que vous pouvez faire avec 23 000 manuscrits. Imaginez quelle précision vous pourrez avoir sur les faits qui sont rapportés avec quasiment 23 000 copies, 23 000 manuscrits qui parlent de la même histoire. C'est énorme, ça vous permet d'éliminer certaines choses, ça vous permet de valider certaines choses, il y a énormément de choses. Et en fait, c'est comme ça, quelque part, qu'on arrive, c'est grâce à ces manuscrits-là qu'on arrive à dire, en fait, ce que nous avons aujourd'hui est vrai. Donc ça, c'est l'une des informations qu'on trouve grâce au test bibliographique. Alors, je n'ai pas été plus loin, j'aurais pu vous montrer, en fait, l'un des plus vieux fragments, ça s'appelle le P52. C'est un petit morceau comme ça de papier qui nous parle de l'évangile de Jean. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on compare ces différentes choses-là, quand on compare le texte, eh ben, on arrive à la même chose, on arrive au même résultat, à la même compréhension du texte qui est écrit. Et ça, c'est un élément qui est en faveur de la fiabilité de la Bible. Voilà une des raisons qui nous pousse à proclamer cette réalité-là. Bon, allons plus loin. Source non chrétienne. Alors, lui, c'est Tacite, un historien romain. Donc, à peu près 50, 56, on ne sait pas exactement après Jésus-Christ. Et il a vécu jusqu'à 120. Donc, comme vous pouvez voir, c'était un historien de l'époque. Ok ? Un historien, un homme politique, il est également militaire, tout ça. Et donc, lui, ce qu'il a fait, il a écrit un bouquin qui s'appelle Annales. Ce bouquin, en fait, ce qu'il a voulu faire, c'était écrire sur papier tous les événements qui s'étaient passés, toute l'histoire de là où il habitait. Il les a écrits quelque part, il les a écrits dans un livre qui s'appelle Annales. Donc il y a plusieurs livres dedans, plusieurs tomes, vous pouvez les consulter sur Internet, ils sont là. Tout le monde peut les voir, tout le monde. Absolument tout le monde peut ouvrir ces livres-là et les lire. Maintenant, regardons ce que Tacite dit. Je vais lire. Pour apaiser, donc c'est 1544, pour apaiser ces rumeurs, il offrit d'autres coupables. Donc, de qui parle-t-on ici? On parle de Néron. Néron, c'était un des empereurs de l'époque. Il fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés par leur abomination et que le vulgaire appelait chrétiens. De qui parle-t-on? On parle de nous. Ce nom leur vient de Christ, qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procureur Pontius Pilatus. Réprimé à l'instant, cette exécrable superstition se débordait de nouveau, non seulement dans la Judée, où elle avait sa source, mais dans Rome même, où tout ce que le monde enferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve des partisans. Donc voilà ce qu'on dit sur ces personnages. Je saute un peu en bas, où on voit que ce qu'il faisait, c'est qu'il brûlait les chrétiens. En fait, ils s'en servaient pour faire des torches. C'est marqué en bas. Dernière ligne, brûlait en place de flambeaux. Ils les utilisaient pour en faire des torches, quoi. Dans ses jardins, ils faisaient des spectacles avec, donc ils utilisaient les chrétiens pour faire ça. Voilà ce que Tacite nous dit sur le récit de la Bible. Qu'est-ce qu'on en retient? Jésus a été mis à mort par Pilate. C'est Tacite qui le dit. Le christianisme s'est vite répandu, il était présent à Rome. C'est Tacite qui le dit. Et on a dans la Bible une épître, l'épître aux Romains, que Paul a écrit sans y avoir été. Il y avait des chrétiens à Rome. Les chrétiens étaient persécutés et mis à mort. Alors, ça, tout ça, ce qui est écrit là, c'est exactement ce que les évangiles nous rapportent aujourd'hui. Et donc, on a ici une correspondance entre le récit biblique et une preuve qui est non chrétienne, qui est complètement opposée à la foi chrétienne, qui confirme historiquement ce que nous, ce que la Bible rapporte. On poursuit ? Tacite. On passe maintenant à Pliny le Jeune. Voilà, Pliny le Jeune, donc 61-62. Qui est important, c'est que c'est un sénateur. Et en fait, lui, il va écrire aussi d'autres livres, et il va en écrire un à l'empereur Trajan. Il va lui écrire un texte où il va parler des chrétiens. C'est assez dur, quand même. Donc, lettre à Trajan. Donc là, pareil, vous allez sur Internet, vous tapez lettre à Trajan 10-96, vous tombez sur ce passage-là. En attendant, voici la règle que j'ai suivie envers ceux qui m'ont été déférés comme chrétiens. Je leur ai posé la question, s'ils étaient chrétiens. Ceux qui l'ont avoué, je les ai interrogés une seconde fois, une troisième fois, en les menaçant du supplice. Ceux qui ont persisté, je les ai fait conduire à la mort. Un point, en effet, hors de doute pour moi, c'est que, quelle que fût la nature délictueuse ou non du fait avoué, cet entêtement que les chrétiens avaient, cette inflexible obstination méritait d'être punie. Et pour ceux qui étaient romains, il les envoya à Rome. Voilà ce que Pline dit. Et ce n'est pas fini. Je poursuis. Ceux qui ont nié qu'ils fussent ou qu'ils eussent été chrétiens, j'ai cru devoir les faire relâcher quand ils ont invoqué après moi les dieux et qu'ils ont supplié par l'encens et le vin votre image, que j'avais pour cela fait apporter avec les statues des divinités et qu'en outre, ils ont maudit Christus. Toutes choses auxquelles, dit-on, ne peuvent être amenées par la force. Attends, tout cela, par la force, ceux qui sont vraiment chrétiens. Et donc là, maintenant, on va voir qu'ils vont citer comment est-ce que les chrétiens se rassemblaient à l'époque. Donc, or, ils affirmaient que toutes leurs fautes ou toutes leurs erreurs s'étaient bornées à se réunir habituellement à des jours fixés avant le lever du soleil pour chanter entre eux alternativement un hymne à Christus comme à un dieu et pour s'engager par un serment non à tel ou tel crime, mais à ne point commettre de vol. Je saute. Des brigandades, d'adultère, etc. Et il va aller plus loin, cet homme. Cela m'a fait regarder comme nécessaire de procéder à la recherche de la vérité par la torture de deux servantes, de celles qu'on appelle diaconesses. Je n'ai rien trouvé qu'une superstition mauvaise, démesurée. Aussi, suspendant l'instruction, j'ai résolu de vous consulter. Voilà ce que cet homme écrit. Et maintenant, Trajan va répondre. L'empereur répond à Pline. Tu as suivi la marche que tu devais, mon cher Secondus, dans l'examen des causes de ceux qui ont été déférés à ton tribunal comme chrétiens. En pareille matière, en effet, on ne peut établir une règle fixe dans tous les cas. Il ne faut pas les rechercher. Si on les dénonce et qu'ils soient convaincus, il faut les punir. De façon, cependant, que celui qui nie être chrétien et qui prouve son dire par des actes, c'est-à-dire en adressant des supplications à nos dieux, obtienne le pardon comme récompense de son repentir, quels que soient les soupçons qui pèsent sur lui pour le passé. Une autre personne, Pline, le jeune, qu'est-ce qu'on retient de ce récit ? Donc là, je vous montre juste la carte. Donc lui, il était dans cette partie-là, Bithynie et la région de Pont. Donc c'est là où il a gouverné pendant, je crois, 3 ans. Donc Jérusalem est ici, il était là. Et Rome était quelque part par là. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce récit ? Il y avait un nombre important de chrétiens, c'est indéniable. Donc j'ai mis 111-13 parce que c'est les deux dates, les deux intervalles de dates sur lesquels on estime qu'il a été gouverneur dans cette partie. Le test de l'adoration polythéiste est suffisamment efficace. C'est-à-dire que ce mec, il savait que si je leur demandais à ces chrétiens d'adorer nos dieux, c'était suffisant et efficace pour voir si c'était des vrais chrétiens ou pas. Pour les amener au bout, pour pouvoir tester leur foi. Et c'est ce qu'il a utilisé tout au long du récit. On apprend également que les chrétiens se réunissaient régulièrement, que l'Église était persécutée. On apprend que l'Église était structurée. Vous avez vu, il y a un mot qui apparaît, ce diaconesse. Et si vous lisez l'épître à Timothée, vous allez voir que Paul, dans Timothée 3, à partir du verset 7, il commence à parler, il parle des diacres là-dedans. Et on voit que dans l'Église de l'époque, il y avait déjà des diaconesses. Et ça, ce sont des récits externes, des preuves externes qui viennent confirmer la Bible, qui viennent confirmer nos récits. Pourquoi est-ce que tu crois en la Bible? Qu'est-ce qui t'amène à y prêter du crédit? Voilà quelques éléments concrets. Et ce qu'il y a de simpliste comme vision, c'est de juste dire, dans notre société, on va dire, bon, voilà, de toute façon, c'est des mythes, ça. Mais la question que je pose au début, il ne s'agit pas juste de répondre par oui ou par non, mais de donner des éléments concrets sur ce qu'on croit. Et ça, c'en est un. Il y en a plusieurs. Poursuivons. Une petite question. Si vous deviez raconter une histoire qui s'est déroulée en France, combien de villes, régions, rivières citeriez-vous? Je ne sais pas, vous en citeriez... On vous demande de raconter une histoire, allez, je ne sais pas, sur Louis XIV, je ne sais pas, vous citeriez, enfin, je ne sais pas. Plusieurs. Un max. Pourquoi un max?
Pour contextualiser.
Ouais, pour contextualiser. Alors maintenant, regardons ce qu'il en est de la Bible. Dans le livre de Matthieu, donc là, c'est des mots en grec. Le nombre de mots en grec n'est pas exactement le même que celui qu'il y a dans notre littérature aujourd'hui. Ce qui en ressort, c'est que Matthieu cite 43 villes, Marc 33, Luc 62, Jean 39. Dans le récit de la Bible, on trouve des régions, on trouve des cours d'eau et d'autres endroits. Et après, il y a une proportion de lieux par tous les 1000 mots. Donc en gros, c'est un mec qui s'appelle Bocan, qui a écrit ça, Richard Bocan, qui en fait, il s'est intéressé en fait à tout ça. Et je trouve ça, il est où le récit? C'est ce livre-là. Si vous voulez, si vous avez le temps, ben, en gros, c'est un bouquin en anglais qui dit « Jesus and the High Witnesses ». Pardon, désolé si je parle pas bien anglais. Sorry, I'm so sorry, Hima. I'm so sorry. High Witnesses. Ok. Ok, on revient. Donc, si vous voulez aller plus loin, eh ben, ce bouquin, il est énorme parce qu'il y a énormément... En fait, c'est un gars qui a étudié tous les témoins de Jésus, tous les disciples, qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils croyaient, qu'est-ce qu'ils ont donné comme contenu. Donc voilà, un autre élément qui nous dit que... je veux juste vous comparer ça avec Thomas. On va essayer d'aller un peu plus vite. Je vais aller... Au-delà... Ah non, je n'ai pas là. Ah, on a un petit souci. Je ne peux plus revenir en arrière. Technique. Je sais pas ce qui s'est passé. Ok, donc ça c'est Thomas, c'est l'évangile dit de Thomas. Alors lisons ce qu'il nous dit. En gros dedans c'est que des phrases sur Jésus. Il dit « Celui qui trouvera les interprétations de ses paroles ne goûtera jamais à la mort ». Ça c'est l'évangile de Thomas texto, c'est la première phrase de cet évangile. Jésus a dit que celui qui cherche ne cesse pas de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera troublé. Quand il sera troublé, il sera émerveillé et il régnera sur le tout. Jésus a dit, si ceux qui vous guident vous disent, voici le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous prédesseront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous prédesseront. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Lorsque vous connaîtrez, alors on vous connaîtra et vous saurez que c'est vous les fils du Père vivant. Si au contraire, vous ne vous connaissez pas, alors vous êtes dans la pauvreté et c'est vous la pauvreté. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous en pensez de ce récit? Qu'est-ce qu'il dit sur le salut, ce texte? Première phrase, il dit quoi sur le salut, Thomas? Le soi-disant évangile de Thomas, il dit quoi? Il dit que le salut est caché. C'est ça en fait. Il faut trouver le salut. Il est quelque part caché, quelque part. Il va falloir le chercher et le trouver. Et c'est tout le contraire de ce que les disciples disaient, de ce que Jésus disait, de ce que C'était clair pour tout le monde. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et c'était clair pour ceux qui se positionnaient pour Jésus. C'était les personnes qui, une fois qu'elles se positionnaient pour Jésus, elles risquaient la persécution. On l'a vu là tout à l'heure. Elles étaient mises à mort. Et ce récit-là arrive à dire, tu trouveras l'interprétation de ces paroles. Tu les trouveras. En gros, ce n'est pas accessible. Il faut les chercher, il faut les trouver. Vous voyez déjà un élément ? Alors, qu'est-ce que j'ai noté en autre ? Qui cherche trouve. celui qui cherche ne cesse pas de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Vous voyez le lien ou pas ? Vous voyez le lien avec ce qu'il y a dans la Bible ? En fait, ce récit-là, qui prétend contredire la Bible, est en fait un récit qui est basé sur la Bible. Parce qu'en fait, il prend certaines choses bibliques qu'il transforme. Et ça, c'est juste une preuve pour dire qu'à ce moment-là, quand ce mec a écrit, la Bible existait déjà. Qu'on connaissait déjà ces paroles de Jésus. Et ça faisait écho, en fait, à l'époque. Parce que c'était quelque chose qu'on trouvait dans les évangiles. Mais pas tout à fait dans ces termes. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué le verset 17:3. Voilà. Jésus a dit, je vous donnerai ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que la main n'a pas touché, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Ça, c'est une citation de Corinthiens, plus ou moins exacte, mais qui n'est pas vraie. Dernière phrase, punchline, que Marie sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Jésus dit, voici moi, je la tirerai pour que je la rende mâle, afin qu'elle aussi devienne un esprit vivant pareil à vous, les mâles. Car toute femme qui sera faite mâle entrera dans le royaume des cieux. Donc, c'était exactement comme ça que réagissaient les chrétiens quand ils voyaient ce texte. Ils connaissaient la vérité et ils savaient tout simplement que ça, c'était de la daube. Pardon, que c'était pas juste. Ils le savaient en fait, il n'y avait pas besoin de discuter pendant 1000 ans. Ils avaient l'évangile, ils savaient ce que disait, ils connaissaient qui était Jésus, ils savaient ce qu'il avait fait. Et quand ils recevaient ça, mais enfin non quoi, enfin, il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas de débat. Et aujourd'hui, plusieurs millénaires plus tard, on arrive et vous voyez, on va vous dire, ah mais l'évangile de Thomas dit ça, et vous qui vous prouve que la Bible est vraie. Et est-ce que vous avez regardé, vous avez été attentif au nombre d'éléments factuels, le nombre de villes, le nombre de personnes qui sont mentionnées? C'est très succinct, c'est que des petites phrases comme ça que n'importe qui aurait pu écrire. Et on sait que les évangiles, les livres des actes ne sont pas écrits sous cette forme-là. Il y a plusieurs détails dedans. On va voir un autre détail. Je reviens. J'ai fait ça. Je prends Luc. Luc 13. Le même jour, deux de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Il y a des informations historiques qui sont là, en fait, que Luc a pris le soin de mettre, que n'importe qui de l'époque pouvait aller vérifier. Vous voyez le contraste avec ce qu'il y avait dans Thomas tout à l'heure. C'est des détails qui sont, comment dire, qui sont concrets, qui sont numériques. 12 kilomètres. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était forcément de la région. Si aujourd'hui, je vous demandais d'écrire sur ce qui se passe il y a 1000 ans, je sais pas moi, à Dakar, et que vous me citiez la distance entre deux villes, eh bien, allez-y. Hein. C'est forcément quelqu'un qui était de la région et qui connaissait un peu la géographie, qui connaissait les distances entre les villes. C'était quelqu'un qui était près des sources, qui était près de ce contexte-là. Et ce sont des personnes comme ça qui sont cruciales pour valider quelque part un récit. Tout à l'heure, je parlais de la famille de Michael Jackson. C'est des personnes qui ont vécu dans son quartier qui pourront vous dire que Michael Jackson habitait dans telle ville, qui était à tant de distance de telle autre ville. Voilà des critères qui sont importants à prendre en compte. Donc voilà, il y a ce passage-là, j'en ai un autre. Donc ça, c'est Jean 11 sur Lazare. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Donc là, également, on a un élément de ville qui nous est donné. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui avait essuyés avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade. » Je voulais arriver au verset 7. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Donc, dans le récit du Nouveau Testament, on a ces mouvements-là qui sont marqués. Ce n'est pas juste une histoire comme ça linéaire. Il y a des mouvements qui sont marqués en un tel endroit. Et là, on revient, on retourne. Ça veut dire qu'avant, ils y étaient déjà. Et c'est des faits qui sont également concrets, qui sont factuels et qui nous confortent sur la véracité de ces textes. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Une vraie connaissance de la géographie des localités pour ces personnes qui ont écrit. Et leur connaissance était collective. Mais si vous lisez les évangiles, vous verrez qu'il y en a qui citent des villes que d'autres ne citent pas. En sorte que il y a des villes, par exemple, que seul Jean va citer et que Luc ne citera pas. Donc, en gros, il y avait à la fois une connaissance qui était collective, mais en même temps spécifique pour certains d'entre eux. Deuxième question. Si vous deviez écrire une histoire, combien d'homonymes utiliserez-vous ? Un homonyme, c'est bien le mot, hein ? Non, c'est pas le mot ?
Je sais pas, c'est quoi ?
Alors, homonyme, alors moi, il y a combien de... Il n'y a pas d'homonyme ici. Bon, je m'appelle... Ah oui, il y a deux Louise. Il y a deux Louise. Louise. Il y a deux Jonathan. Voilà, donc c'est deux personnes qui ont le même nom, tout simplement. Donc, combien allez-vous utiliser dans la même histoire ? Regardez toutes les histoires que vous avez lues aujourd'hui, hein, à l'école, Harry Potter, regardez toutes les histoires qui existent aujourd'hui que vous avez pu lire. Comptez le nombre d'homonymes qui sont mentionnés dedans. T'as dit ? Ouais. En général, il n'y en a pas. En général, il n'y en a pas. On s'embête pas avec ce genre de choses. C'est des détails qui rendent complexe le récit. Tu ne vas pas te mettre à citer, bon, ben voilà, là, il y a le Jonathan, et après, il y avait un autre Jonathan, ensuite, il y avait un autre Jonathan qui faisait ceci, ensuite, il y avait un autre Jonathan. Ça complexifie le récit. Et c'est, enfin, les écrivains n'utilisent pas ça, en fait. Regardons maintenant la Bible. Marc 3, 13, Simon, auquel Jésus donna le nom de Pierre. Simon, Pierre. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie « fils du tonnerre ». André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, le Zélé. Il y a combien de Simon ? Il y en a deux. Il y a combien de Jacques ? Il y en a deux. On a Simon, Pierre et Simon, le Zélé. On a Jacques, fils de Zébédée et Jacques, fils d'Alphée. Quand tu lis ça, tu te dis « mais enfin, ça ne me sert à rien de savoir que c'est le fils d'Alphée ». Tu vois, tu dis « mais fils de Zébédée, mais ok, enfin, qu'est-ce que ça m'apporte quoi ? Ça ne fait rien ». Mais est-ce que vous voyez pourquoi l'importance de ça ? C'était justement pour différencier, parce que les gens qui lisaient ça savaient qui était qui. Et que si moi, aujourd'hui, j'écris une histoire de l'ECE, allez, l'ECE, on est en septembre, le 28 septembre 2019, j'écris, bon voilà, dans la rencontre, on était plusieurs, il y avait Jonathan, vous voyez ce que je veux dire ? Jonathan, je veux dire, avec une jolie barbe, et un autre qui n'en avait pas, je rajoute, mais non, c'est pas pour se marrer. C'est pas pour se moquer. Je voulais pas dire un gars qui était blanc, alors qu'il était black. Je voulais pas dire ça. Donc j'ai choisi un autre critère. Bref, ça, pour vous qui êtes là, c'est un élément concret qui vous permettra de savoir de qui je parle. Si je dis Jonathan le barbu a présidé, vous saurez exactement qui est ce Jonathan-là. Il n'y aura pas d'ambiguïté pour vous. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Exactement la même chose. Jacques, fils d'Alphée, ça parlait aux gens de l'époque. Quand les personnes recevaient ce récit-là de Marc, ils disaient « Ah ouais, mais je vois qui c'est, je le connais, je vois qui c'est, j'ai entendu parler de lui, je sais qui c'est. » C'était clair. Marc, Simon, un autre Simon, donc on a Simon le lépreux, ça fait trois Simons déjà qui sont mentionnés. En gros, il y avait plusieurs occurrences. Et donc ce même gars, il s'est amusé, en fait, c'est de lui que je tire ça, il s'est amusé à regarder les noms qui sont dans la Bible. Il a compté le nombre de fois qu'il y avait de noms différents. Et il a regardé tous les autres récits de l'époque. Il a comparé pareil le nombre de fois que les noms apparaissaient. Et il s'est dit, bon ben voilà, si un Simon dans la Bible est mentionné trois fois, au moins trois fois, ça veut dire que dans les récits de l'époque, on devrait trouver également beaucoup de Simons. Parce que c'est logique, quoi. Enfin, je vous donne un exemple. Je m'appelle Rowling, voilà. Imaginez que j'écrive une histoire du temps de Louis XIV. Et je dis, bon, ben voilà, il y avait un mec qui s'appelait Lingwala qui habitait dans la cour de Louis XIV. Eh bien, c'est simple. C'est très simple. Vous prenez d'autres récits de l'époque. Vous comptez le nombre de noms qui apparaissaient dans ces récits-là. Et vous prenez mon prénom, mon nom, vous ne trouverez pas. Ça ne marchera pas. Il n'y aurait pas autant d'occurrences de Ngwala là-bas, parce que ce n'est pas possible qu'il y ait un gars qui soit arrivé là-bas, enfin non, ce n'est pas possible, tout simplement. Et regardez par exemple, un autre exemple. Peter, ça veut dire Pierre, ou Petros. Le même nom a des ramifications différentes suivant là où il se trouve. Mais c'est la même chose. Les Juifs qui habitaient à Jérusalem avaient des noms qui étaient spécifiques, contrairement aux Juifs qui habitaient en dehors de Jérusalem. Pareil pour nous, on le voit. En France, on va dire Pierre, vous allez en Espagne, ça sera un autre nom, vous allez en Grèce, ça sera un autre nom. Et du coup, vous pouvez facilement dire que ce nom-là ne vient pas de la France. Petros, faux, c'est pas français. Tu peux dire ce que tu veux, mais la proportion, tu compares les pierres, enfin, le nombre de pierres et le nombre de Petros, tu sauras dire que ben, le Petros, ce n'est pas français du tout. Sauf s'il y en a qui s'amusent à appeler leur nom Petros, juste pour, parce qu'ils veulent l'appeler comme ça. Alors, voilà les occurrences. Donc là, vous avez le nombre de sources totales qu'on a aujourd'hui sur les récits de l'époque, de l'Antiquité. Simon, 243 occurrences de Simon différents. Dans le Nouveau Testament, il y en a 8 de Simon. Il y a 8 Simons dans le Nouveau Testament. Bref, vous voyez qu'il y a plus ou moins une corrélation. Et plus on descend, sauf pour Eliezer, là, plus on voit que ça descend également. Et du coup, ça vient confirmer quelque part le nombre les noms qu'on a dans la Bible correspondent finalement en fait à ceux qu'il y avait à l'époque à ce moment-là. Donc voilà notre critère qui permet aujourd'hui de valider ce récit-là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et ensuite, donc ça, c'est en fait c'est la proportion, parce que comme je disais tout à l'heure, les Juifs n'avaient pas forcément les mêmes noms quand ils étaient en Palestine ou quand ils habitaient ailleurs. Donc en gros, ils ont comparé les noms entre le pourcentage des noms Simon et Marie. Et en fait, voilà, dans la Bible, on en trouve plusieurs, mais ça correspond plus ou moins au taux, au pourcentage qu'il y avait à ce moment-là. Voilà en quelques mots, quelques éléments concrets qui nous parlent en fait de la fiabilité de la Bible. Je n'ai pas utilisé tous les livres de la Bible, je me suis focalisé là sur la vie de Jésus. Pourquoi ? Parce que la vie de Jésus nous parle de quelque chose de, comment dire, de la résurrection de Jésus. Et quand on lit les évangiles, on voit qu'avant la résurrection, les disciples, ils avaient tout lâché. Ils avaient tout abandonné, Pierre avait renié Jésus et tout ça. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a tout changé. L'Église est née après la résurrection de Jésus. Et c'est parce que ces disciples qui ont vu Jésus mourir, qui l'ont renié pour certains d'entre eux, qui ensuite l'ont vu ressusciter, qui l'ont vu monter au ciel. Voilà le feu, voilà la vérité qu'ils ont vue de leurs yeux, qui a été le moteur derrière tout le Nouveau Testament et tout ce qu'on apprend sur la vie de l'Église. Ils étaient prêts à aller mourir parce qu'ils savaient, parce qu'ils avaient vu une personne qui était morte et ressuscitée. Ce n'était pas un témoignage de « on m'a dit ». C'était un témoignage de quelque chose que j'ai vu. Et notre foi chrétienne est basée sur le témoignage de témoins oculaires. Elle n'est pas basée sur un témoignage comme ça, c'est basé sur les personnes qui ont vu Jésus. Et c'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, que j'aimerais juste lire pour conclure. Si ça veut bien marcher. Or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ, lui, non plus, n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Il n'y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoignages à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité Christ. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, alors Dieu ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, elle est vaine, et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis à Christ, sont à jamais perdus. C'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Et Paul, derrière, il va dire que plusieurs personnes l'ont vu. Des témoins oculaires, ils étaient 500 à l'avoir vu, avoir vu ce Jésus ressuscité, et c'est de là que tout est parti. Voilà en quelques mots, quelques éléments concrets pour vous encourager dans vos discussions par rapport à vos amis qui s'interrogent, peut-être par rapport à vous-même aussi. Et quel encouragement je vais vous laisser par rapport à ça? Eh bien, on est en début d'année. L'encouragement pour vous que j'aimerais qu'on puisse tous avoir, moi y compris, c'est que nous puissions passer du temps avec la Bible. Que nous puissions passer du temps avec ce livre, tout simplement, qui est la source de notre foi. Si nous sommes réunis ici dans cette église, c'est parce que nous croyons la Bible et que ce message a traversé les siècles. Et c'est encore là-dedans, aujourd'hui, que nous devons puiser tout ce dont nous avons besoin pour notre foi. Donc voilà, je m'arrête là.